Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Dans la jungle du numérique.
Je vous parlerai ici de gestion de données, d'archivage numérique, de dématérialisation et de numérique responsable. Je m'appelle Florence Gillet, je suis gestionnaire de l'information et consultante numérique. Après avoir travaillé comme archiviste numérique en Belgique pendant 17 ans, je développe aujourd'hui mon activité à La Réunion, où j'aide les entreprises, collectivités et PME à optimiser la gestion de leurs données. Je vous propose ici de questionner le numérique pour tenter de comprendre comment l'utiliser au mieux, afin de maîtriser son empreinte écologique, économique et sociale.
Le plaisir aujourd'hui de rencontrer Marie-Laurence Dubois, gestionnaire de l'information, présidente de l'Association des archivistes francophones de Belgique pendant 6 longues années, une vraie passionnée de son métier comme vous allez pouvoir l'entendre. Nous parlerons avec elle bien évidemment de son parcours, mais surtout de la protection des données à caractère personnel, un sujet qu'elle maîtrise particulièrement bien comme archiviste.
Bonjour Marie-Laurence.
Bonjour Florence, tu vas bien?
Mais ça va bien et toi?
Oui, ça va bien, merci.
Ça va? Écoute, je suis vraiment ravie de faire cette interview avec toi, parce que d'abord, tu le sais, c'est toujours un plaisir de mener des projets ensemble, de papoter de questions liées à notre métier de gestionnaire de l'information. Et c'est vrai que je voulais aborder depuis longtemps avec toi une problématique que tu connais bien, parce que je sais que tu la pratiques régulièrement dans ton métier, c'est celle du RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données. Voilà. Alors, tu nous expliqueras en détail ce que c'est tout à l'heure, mais avant, j'aimerais bien revenir avec toi sur ton parcours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais voir c'est quoi, en fait, pour toi aujourd'hui être gestionnaire de l'information. Comment est-ce que tu vis ton métier aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit?
Donc moi, peut-être quelques mots sur mon parcours qui est atypique sans l'être vraiment. Mais donc au départ, moi je suis documentaliste de formation. Et comme je dis toujours, je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisque quand j'étais petite, enfant, je ne jouais pas avec des poupées, je jouais avec des papiers. Et donc très vite, ce métier, c'était une évidence pour moi. Et donc, après avoir fait mes études, j'ai travaillé un peu en bibliothèque. Et puis, très vite, je me suis retrouvée dans un contexte où j'ai eu une chef qui m'a dit « Moi, je dois pouvoir venir ici, au bureau, et retrouver un document dans n'importe quel bureau. » Donc, c'était il y a plus de 20 ans de ça. Et j'étais dans un contexte de cabinet ministériel. Donc, c'était en France, je ne sais pas si c'est connu, mais donc c'est bien un ministre a une cinquantaine de collaborateurs en Belgique, en moyenne, qui l'entoure pour faire son travail au quotidien. Et donc, on est bien dans un contexte d'urgence, d'immédiateté continue. Et donc, c'est vrai que cette chef, ça faisait 15 jours que j'avais été engagée comme documentaliste. Donc, moi, la documentaliste, elle gère bien l'information qui rentre dans l'organisation. C'est bien la mise en place de structures de classement, etc., pour gérer la documentation qui rentre et assurer une veille ou les recherches documentaires pour alimenter les collaborateurs. Et donc, quand elle m'a dit « je veux pouvoir retrouver un document dans n'importe quel bureau », je me suis dit « oulala, moi, je ne suis pas formée, ou en tout cas, je n'ai pas développé le service que je veux proposer pour gérer l'ensemble des données que les collaborateurs géraient, à savoir leur courrier, leur dossier, les échanges qu'ils avaient avec d'autres interlocuteurs extérieurs. » Et donc, très vite, je me suis retrouvée à devoir gérer le flux d'informations qui circulaient au sein du cabinet, et comprendre les interactions entre les collègues et voir comment on pouvait effectivement mettre une logique commune dans tout ça. Donc, de nouveau, très vite dans ma carrière, en fait, je me suis retrouvée à gérer le flux d'informations au-delà de la documentation qui arrivait au sein du cabinet. Et puis, alors, mon parcours m'a amenée à travailler un peu au Conseil d'État. Donc, j'ai fait un petit passage au Conseil d'État, avec un rôle de documentaliste qui fait les recherches juridiques. Mais donc, ça m'a affinée mon expertise par rapport à la connaissance des textes juridiques et de comment ceux-ci se construisent et comment joue la jurisprudence par rapport à ces textes juridiques. Et puis alors après, j'ai géré pendant 10 ans un centre d'archives privées qui était centré sur la mouvance environnementale et les archives aussi du Parti écologiste belge. Donc, ça veut dire qu'avec ça, je rajoutais encore une corde à mon cycle de vie des documents, puisqu'alors là, j'ai dû rentrer dans tout ce qui était la conservation pérenne de l'information, qu'est-ce qu'on doit garder pour toujours, pour faire histoire ou pour faire sens. Et au-delà de, je gérais aussi toujours le cycle de vie pour les associations environnementales ou le parti écologiste de ce qu'ils produisaient au fur et à mesure. Donc, avec ça, je pense que j'ai acquis quelque part, au travers de ces expériences, depuis le début où le document est produit, soit parce qu'il alimente la réflexion dans une structure, jusqu'au moment où il faut les garder pour toujours. Et puis alors, en 2014, voilà, j'ai sauvé mon équipe et puis j'ai fait les frais d'une restructuration importante. Voilà, donc le service continue à fonctionner, heureusement, depuis mon départ. Et donc là, voilà, j'approchais avec cette expérience de me dire c'est peut-être le moment de faire le grand saut et de tester, de se mettre au service d'autres structures et, de ne plus, et d'être moi-même mon propre chef. Et donc, je me suis lancée dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai créé ma structure Valorescence pour pouvoir accompagner essentiellement au départ les ASBL et les PME dans leur mutation numérique, depuis toujours sous l'angle de la gestion de l'information, dans mon cas. Et donc, voilà, j'ai mis c'est mes compétences et mon expertise à pouvoir accompagner, parce que ça, je m'en rendais compte déjà quand j'étais salariée à travers les archives environnementales, que les gens, en fait, avaient perdu les règles de comment je gère mon information et que l'informatique, finalement, avait amplifié ce phénomène de désordre numérique après avoir eu du désordre physique de ces données. Donc voilà, ça c'est pour mon parcours. Et donc comment je vois aujourd'hui mon parcours de gestionnaire de l'information, ben c'est voilà, c'est d'être au service des organisations qui doivent prendre en main leur information, depuis le document qui rentre dans l'organisation, au document qui est produit par l'organisation, jusqu'à sa conservation pérenne ou intermédiaire. C'est-à-dire que et apprendre aux gens, réapprendre aux gens. À jeter, parce qu'en fait, dans l'univers électronique aujourd'hui, un de mes grands constats, c'est de me rendre compte qu'en fait, les gens ne suppriment plus rien parce qu'en fait, ils ne voient plus l'information. Autant dans un bureau en désordre avec du papier, les gens voient à un moment donné qu'ils doivent faire du rangement, autant dans un PC ou dans un serveur de fichiers, ben, on recrée un autre répertoire, voire on met, soi-disant, en archive ou en stockage ce qu'on ne veut plus voir sous ses yeux et on est reparti. Et avec ça, on accumule des données, des documents en support électronique. Et ça, ça pose question, évidemment, sur pour retrouver son information d'abord et puis après sur pourquoi accumuler tout ça si jamais on doit y revenir.
Et donc, tu travailles avec des gens très différents, en fait.
Alors, voilà, dans le type, donc c'est essentiellement des organisations, donc des entreprises ou des ASBL. Mm-hmm. Donc oui, effectivement, j'ai beaucoup de clients assez différents. Avec lesquels je travaille peut-être par petites missions. Parfois, c'est juste les accompagner à optimiser le partage de l'information dans une équipe de travail. Et donc là, c'est une mission de 3-4 jours où je les forme un peu à c'est quoi un bon classement, de faire la distinction entre qu'est-ce que vous produisez comme information, où ça vous êtes en responsabilité sur ce que vous devez conserver par rapport à ce que vous pouvez jeter parce que c'est de la documentation qui vous alimente, mais que si cette documentation est obsolète, c'est fini. Donc ça, c'est des missions de 3-4 journées où au bout de la quatrième journée, leur serveur de fichiers est remis avec la nouvelle logique et ils peuvent alors travailler en équipe avec cette nouvelle logique de structure de leur répertoire. Et ça, c'est la formule assez simple. Mais je n'ai pas géré leurs archives, évidemment, dans ce contexte-là. Mais ça peut aller aussi à accompagner des structures plus importantes parce qu'elles veulent passer à un autre mode de fonctionnement que des serveurs de fichiers. Et donc là, ça peut être d'identifier les besoins en termes de logiciels de gestion de type CRM, GED, système d'archivage électronique. Aujourd'hui, j'ai aussi des structures où ils sont déjà avec un système important, mais ils veulent pouvoir valider que leur système d'archivage électronique puisse faire preuve devant la loi, puisqu'en Belgique, on a avancé sur une législation sur l'archivage électronique, enfin, qui est encore très théorique pour le moment. Comment est-ce qu'on avance pour être collé à ces prescriptions juridiques pour faire reconnaître son système comme système d'archivage électronique? Voilà, ça peut être vraiment l'accompagnement des gens, et je fais encore aussi parfois de l'archivage patrimonial en traitant les archives papier des ASBL ou des PME que j'accompagne, parce qu'il y a parfois encore une histoire à sauver, et ça me tient à cœur aussi. Les entreprises et les ASBL sont peu conscientes par rapport au public que leur histoire peut avoir un intérêt pour eux d'abord, c'est-à-dire pouvoir se replonger dans ce qu'on a fait comme projet permet de ne pas reproduire parfois les... ou justement de se rendre compte qu'on a fait des bonnes choses et de comment est-ce qu'on peut améliorer ces choses en se replongeant dans le projet d'origine. Et par contre, intéresse aussi la société au sens large, et donc des chercheurs ou des citoyens qui pourraient s'intéresser à l'histoire d'un territoire, à l'histoire d'une thématique, et qui seraient alors intéressés de se replonger dans l'histoire de ces organisations. Je pense notamment, je termine là, les archives d'une fédération professionnelle d'entreprise située en région wallonne. Et donc, c'est évidemment intéressant de connaître le tissu économique wallon à travers les archives de cette fédération professionnelle qui agit sur l'ensemble du territoire.
En fait, ce qui me frappe...
Voilà, donc ça, c'est, ouais, ce qui c'est me frappe... effectivement les principales actions de mon job, en tous les cas.
Et ce qui me frappe, effectivement, c'est que la gestion de l'information, c'est extrêmement large comme sujet, et que c'est chouette de pouvoir toucher à des choses aussi différentes et rentrer dans des univers d'entreprises aussi différents. Je me dis que ça doit être c'est quelque chose, effectivement, qui, au quotidien, est passionnant, et pour le vivre moi-même aussi. C'est vrai que je trouve que c'est le côté très, très chouette de notre métier.
Oui. Oui, c'est ça. Donc, oui, et ça, moi, je dis, c'est mon moteur, c'est que je suis curieuse un peu de nature, mais je veux dire, c'est vraiment de rentrer à la fois par étapes dans l'histoire ou dans la gestion d'une organisation, de pouvoir les accompagner un temps, c'est-à-dire ça, vraiment, je trouve, dans le boulot de consultante, et c'est d'amener une partie d'expertise qu'ils n'ont pas, parce que ce n'est pas leur job, eux, au quotidien, de se préoccuper de leur gestion documentaire, et puis de pouvoir ressortir après. Et que peut-être après, ils reviendront vers moi avec un autre projet. Mais c'est la satisfaction aussi, c'est de voir que après, ils sont plus efficients, plus efficaces, et qu'ils ont pris conscience de l'importance de leur information, et alors qu'ils vont pouvoir continuer. Et j'ai des clients qui me reviennent des années après en me disant, c'est chouette, on a vraiment fait avancer le chemin public quand on est avec toi. Et puis, voilà, ils ont avancé sur d'autres choses, on les a conscientisés à l'enjeu de la bonne gestion de leur information. Mm-hmm. Et effectivement, de se plonger dans la réalité des gens. Donc, c'est un métier passionnant pour ça, parce qu'on les travaille autant avec les gens qu'avec les documents ou les données. Donc, moi, j'adore les deux. En fait.
Ouais.
J'aime bien faire de l'archivage papier, où je suis toute seule dans mon coin à trier les papiers. Mais l'intérêt, c'est parce que je redonne du sens à des papiers, et donc je redonne du sens pour les gens qui vont après les utiliser. Et j'adore aussi être confrontée avec la logique des uns et des autres. Et donc, c'est un travail où la dynamique humaine, elle nous représente aussi, même si on est dans du numérique en permanence. Quoi. C'est vraiment les deux aspects passionnants du métier. Je sais que tu partages aussi ces passions-là comme moi.
Donc, tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu as été amenée, en fait, à un moment donné, à t'intéresser au RGPD. Alors, avant de nous expliquer comment et pourquoi, tu peux réexpliquer ce que c'est, le RGPD ?
Alors, le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données, et c'est des données à caractère personnel. Donc, c'est-à-dire que c'est un règlement qui a vu le jour, dont les premières versions datent déjà de 2010-2011, suite au fait que Google, forcément, quand on tapait le nom de n'importe qui dans Google, on pouvait retrouver des tas d'informations sur ces personnes, chaque individu. Et donc, il y a notamment eu une plainte d'un monsieur qui s'est plaint à Google qu'il avait commis une infraction qui était parue dans un journal à une certaine époque, et chaque fois qu'il tapait son nom et son prénom dans Google, le premier résultat que Google donnait pour lui, c'était cette infraction. Or, il avait purgé sa peine pour ça, et donc lui réclamait le droit à l'oubli, ce qu'on peut tout à fait comprendre dans ce contexte-là. Et donc, le Règlement général sur la protection des données, c'est un règlement européen. Et donc, c'est bien le législateur européen qui a voulu protéger ses citoyens européens par rapport à l'émergence des GAFA. Il faut bien dire ce que c'est. Au départ, ce règlement a bien été mis en place pour contrer, on va dire, le partage des données, la vente de nos données personnelles, que ce soit nos données d'identité comme nos données de consommation sur le net, que ce soit des consommations quand on achète des chaussures, ou les échanges qu'on peut avoir parce qu'on like un article de presse. Et donc, on connaît aussi nos opinions politiques, philosophiques, religieuses, etc. Et que donc, on devait, effectivement, je pense que c'est une bonne chose que le règlement soit en place de ce point de vue-là, c'est que ça protège le citoyen européen de ce qu'on peut faire avec ses données à caractère personnel.
Allez, mais alors, qui est concerné, en fait ?
Sur la vie privée qui existait avant. Donc, il y avait déjà des législations avant, mais elles n'étaient pas contraignantes.
Okay.
Alors que le mais vient avec un aspect plus contraignant pour les organisations, puisqu'il y a des sanctions à la clé, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait une directive européenne qui datait des années 90 et qui était évidemment dépassée par l'émergence du numérique, d'une part, et qui, d'autre part, n'avait pas de sanctions. Et donc, elle était peu appliquée au quotidien parce que les gens ne la connaissaient pas, parce qu'elle, forcément, il n'y avait pas de sanctions.
Oui, parce qu'on a l'impression effectivement maintenant que ce règlement est beaucoup plus connu, enfin il a été en tout cas fortement médiatisé, que maintenant tout un chacun sait à peu près de près ou de loin ce qu'est le RGPD. Et est-ce que tu peux expliquer aussi qui est concerné exactement? Parce que là, tu as parlé des citoyens, mais ça concerne en réalité des acteurs beaucoup plus larges que juste les citoyens.
Donc alors, les citoyens, forcément, ils ont récupéré des droits par rapport à, donc c'est un droit à l'information, un droit à la rectification de leurs données si elles ne sont pas, un droit à l'oubli, on y reviendra probablement parce que c'est un point évidemment que les archivistes ont été très attentifs à ce point. Mais évidemment, il s'applique par contre ce règlement à toutes les organisations, donc pas qu'à Google, Facebook, Amazon, hein, qui sont nos GAFA préférés, mais il s'applique à tout organisme public ou privé, qui traite, qui collecte, qui conserve des données à caractère personnel sur des individus. Donc, ça ne concerne pas les personnes morales. Donc, par exemple, je prends toujours cet exemple-là chez les clients, ben, toutes les adresses mail que vous auriez sur des info@valoressence.be ou voilà, des données génériques sur une entreprise ne sont pas concernées. Mais si, évidemment, vous prenez les coordonnées du directeur de cette organisation, vous collectez des données à caractère personnel sur cette personne. Et vous savez son nom, son prénom, son poste, il est directeur, et la structure dans laquelle il travaille. Donc voilà, si vous mettez ça dans un fichier Excel, vous avez collecté des données à caractère personnel sur une personne, même si c'est dans un contexte professionnel. Donc ça s'adresse à tout organisme, et donc ça va aussi d'un indépendant chauffagiste qui va chez ses clients et qui facture à ses clients ses prestations. Il collecte donc des données à caractère personnel sur ses clients, parce qu'il a leur adresse, il a le type d'intervention qu'il a fait chez eux, et donc forcément, il connaît des choses sur ces personnes. Donc, ça ne concerne pas uniquement les données d'identité, ça c'est important à savoir, c'est toute information qui peut permettre d'identifier une personne directement ou indirectement.
Oui, par recoupement, c'est ça. Oui.
Et par recoupement. Donc, c'est-à-dire une plaque d'immatriculation d'un véhicule. Forcément, si je peux identifier derrière ça, je peux remonter à savoir que c'est la plaque d'immatriculation du véhicule dont le propriétaire est X ou Y. Ce sont bien des données à caractère personnel. Donc, si, par exemple, vous gérez un parking et que vous demandez aux gens leur plaque d'immatriculation pour savoir qui est dans le parking, vous collectez une donnée à caractère personnel via la plaque d'immatriculation. Alors, ce n'est pas grave, on peut le faire, mais c'est comment on va gérer ces données et surtout comment on va les protéger pour ne pas qu'elles puissent être utilisées ou réutilisées dans un autre contexte que celui pour lequel vous l'avez collecté.
Oui, on peut imaginer, on peut imaginer par exemple un sondage qui serait fait en rue et où on ne récolte pas effectivement le nom des personnes parce que le sondage est anonyme, mais on sait qu'une personne, par exemple, a 35 ans, a l'habitude d'aller dans une salle de sport trois fois par semaine, à telle heure, tel jour, et qu'elle habite dans tel quartier. Il y a un moment donné où toutes ces informations pourraient potentiellement faire que on retombe sur l'identité de la personne et donc on est encore là effectivement, alors qu'on est dans le cadre d'un sondage qui serait anonyme, on revient dans le champ de la réglementation du coup.
En tous les cas, si les données, à force de poser des questions, sont très très précises et qu'il n'y a qu'une personne qui habite dans ce quartier, à telle maison, voilà, on pourrait identifier la personne. Donc c'est, si je peux à un moment donné, par recoupement, comme tu le dis, recouper une série d'informations avec d'autres, par exemple, hein, parce que donc là, c'est typiquement ce que font évidemment les GAFA avec nos données, c'est que j'ai un profil sur un réseau social et puis tout à coup, je me connecte avec le même ordinateur, parce que là, c'est une adresse IP qui m'identifie forcément avec mon profil sur le réseau social, au-delà que je mets un identifiant, mais je me connecte tout le temps avec la même machine. Après ça, je me coupe de mon réseau social et je vais faire un achat sur un autre type de GAFA, de type Amazon, pour ne pas le citer, eh bien, tout à coup, je reviens sur le réseau social, eh bien, j'aurai les pubs des chaussures que j'ai regardées de l'autre côté ou d'autres types de chaussures similaires à celles que j'ai vues. typiquement là, c'est du recoupement d'informations, puisque c'est mon adresse IP qui a permis d'identifier chez Amazon que c'était bien moi, même si je n'ai pas mis mon nom et mon prénom en faisant la recherche. Mais tout à coup, Amazon a communiqué à Facebook le fait que l'adresse IP Intel a refait cette recherche-là. Et donc, le réseau social Facebook, dans ce cas-ci, va pouvoir me donner des publicités ciblées. Typiquement, le recoupement d'informations, il faut vraiment le comprendre avec cette logique. C'est cette logique de « je revends des informations qui, pour moi, m'ont peut-être servi ». Et donc, ton sondage, voilà, il peut être… Mais si le sondage est vendu et qu'on peut recouper par différentes collectes de bases de données différentes, on pourrait retomber sur moi de façon directe parce que… Parce que j'ai répondu au sondage et qu'on a su une série d'informations que voilà. Et donc c'est vraiment le souci d'essayer d'éviter que nos données soient en permanence divulguées sans notre consentement d'une part ou sans base légale, puisqu'il n'y a pas que le consentement qui vaut pour le RGPD. Mais voilà, et donc ça c'est vraiment une problématique qu'on comprend tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que dans la réalité des organisations que moi j'accompagne, très souvent, eux ne sont pas du tout avec ça. C'est des petites ASBL qui font des stages sportifs avec des enfants, qui organisent des stages, etc. Et donc, on se dit, mais attendez, nous, on collecte ça pour pouvoir organiser les stages, etc. Oui, mais si vos données, à un moment, se retrouvent sur une autre plateforme sans la volonté même de la SBL, quelqu'un d'autre va pouvoir faire autre chose avec ces données. Et c'est ça, la problématique. C'est qu'aujourd'hui, le marché de la donnée est tel en numérique que forcément, c'est ça qui est problématique, c'est que l'on puisse à tout moment récupérer des données et en faire autre chose que ce à quoi elles étaient destinées au départ.
Quand on parle de RGPD, on a tendance souvent à y voir une problématique juridique. Toi, en tant que gestionnaire de l'information, comment est-ce que tu peux intervenir et c'est quoi ton rôle justement, puisque tu n'es pas juriste, comment est-ce que tu interviens dans les entreprises ?
Et donc, moi, c'est vrai qu'au début, je m'étais reformée quand même, puisque les archivistes se sont préoccupés, donc les fédérations professionnelles d'archivistes, quand le RGPD, donc ça, je fais un encart, mais oui. A été discuté au niveau européen, cette histoire de droit à l'oubli, les archivistes se sont dit, ouh, attention, le droit à l'oubli, c'est vrai que nous, on le comprend tout à fait dans le réseau des GAFA, etc. Donc là, on est le premier à dire qu'on ne veut pas que n'importe quelle donnée puisse être coupée. Mais comme archiviste, évidemment, nous, dans les fonds d'archives qu'on traite, donc aussi en papier, donc le RGPD conserve aussi le papier.
Aussi le papier, oui.
Mais on s'est aussi inquiété de se dire si à un moment donné, on supprimait toutes les données à caractère personnel qui sont présentes en électronique ou en papier, on pourrait réécrire l'histoire de notre société. Donc, de notre société avec un grand S1, notre histoire avec un grand H. Et donc, je prends toujours l'exemple en Belgique, on a eu une catastrophe du bois du casier, donc des mineurs qui ont été victimes d'un accident dans la mine, qui sont morts dans cette mine. Et donc, on a encore beaucoup, donc il y a eu un musée qui a vu le jour au bois du casier, et on a encore des mineurs italiens, c'était beaucoup de mineurs d'origine italienne qui étaient dans cette mine. Et donc, on a beaucoup de descendants de ces mineurs qui viennent encore se recueillir au bois du casier, qui aiment voir les photos de leurs aïeux et pouvoir se recueillir, connaître l'histoire de ces aïeux parce qu'on a la fiche de l'ouvrier tel qu'il avait été engagé. Si le RGPD s'était appliqué à cette époque-là, aujourd'hui, on aurait dû supprimer ces données et cette fiche de l'ouvrier X ou Y qui comprenait son poste, comment il avait été engagé, son parcours, ses heures de pointage, etc. On n'aurait plus pu faire ça. Et donc, c'est vrai que pour nous, et donc moi, en tant que gestionnaire de l'information, pour répondre à ta question, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire de la consultance en gestion documentaire, j'ai eu des clients qui me disent « Ah, bon, on doit se mettre en conformité au RGPD, est-ce que tu peux nous aider ?» J'ai dit « Moi, je ne suis pas juriste, effectivement. » Mais par contre, où je trouve ma plus-value, évidemment, c'est de pouvoir accompagner les gens à la gérer leurs données. Ce que pose comme question le RGPD, c'est « Qu'est-ce que vous avez comme données ?» Comme traitement de données, qu'est-ce que vous faites comme traitement de données ? Quelles données est-ce que vous collectez ou que vous avez à disposition ? Qu'est-ce que vous en faites ? Donc, où est-ce qu'elles sont localisées en papier, en électronique, sur un serveur, dans le cloud ? Voilà, on doit répondre à toutes ces questions-là. Combien de temps vous devez les garder ? Donc là, évidemment, ma casquette d'archiviste se révèle, évidemment, c'est de dire, il y a un délai légal dans une loi, ben, on doit les garder au minimum pour ça. Mais il y a aussi des données qu'on doit pouvoir se dire, oui, mais plus tard, elles vont peut-être encore resservir, au moins pour raconter l'histoire de la société. Et donc, c'est tout cet enjeu de d'appliquer le RGPD et on gère en fait ces données quand on répond à ces questions-là. Et donc forcément, le gestionnaire de l'information dans son métier, il se pose tout le temps ces questions-là. C'est pourquoi est-ce qu'on a cette information? Dans quel contexte est-ce qu'elle a été produite? Pourquoi? Et indépendamment des données personnelles, évidemment. Jusque quand est-ce que je vais garder ces données? À qui elle peut servir à d'autres? Est-ce que je dois la communiquer à d'autres gens? Donc toutes ces questions que le RGPD pose, le gestionnaire de l'information se les posait avant le RGPD et continue donc à se les poser. Et donc moi, ma plus-value quand j'accompagne les ASBL, c'est vraiment de les aider par là à gérer leurs données, à répondre pour être conforme au RGPD, d'une part, mais au-delà de mettre en place la structure de l'information qui sera la plus adéquate aussi pour qu'ils puissent éliminer les données quand ils doivent les éliminer, mais aussi retrouver l'information quand ils vont justifier le pourquoi ils ont cette information devant eux.
Et
voilà, donc, pour moi, c'est tout à fait prégnant d'être gestionnaire d'information dans ce contexte.
Et du coup, peut-être une petite précision, donc, parce qu'on n'en a pas parlé, le RGPD, ça concerne les entreprises qui se trouvent sur le sol européen. Peu importe les données qu'elles traitent, c'est ça, si je ne me trompe pas, et les entreprises qui se trouvent en dehors du territoire européen, pour peu qu'elles traitent des données qui concernent des personnes qui se trouvent sur le territoire européen.
Tout à fait. Donc ça, effectivement, toute entreprise ASBL indépendante, enfin, voilà, toute personne, enfin, toute structure qui traite des données à caractère personnel, donc c'est-à-dire des données de personnes, si elle agisse, qu'elle agisse donc depuis le territoire européen, comme tu l'as dit, mais si même on a une multinationale qui a des chaises d'exploitation en Inde, forcément, l'Inde étant en communication avec l'Europe, un call center en Inde, eh bien, le call center doit pouvoir respecter les règles puisqu'il agit sur le territoire européen. Donc, ça va dans les deux sens. Effectivement, pour avoir une société américaine, ben, les GAFA, c'est le cas, doivent respecter le RGPD dans le contexte s'ils ont des données d'utilisateurs européens ou des clients sur le territoire européen. Donc, ça s'applique vraiment dans les deux sens. Donc, en gros, c'est quand même un règlement qui a… Alors, il y avait un règlement américain qui gérait ça, mais pour les données américaines, et forcément, aujourd'hui, on sait aussi que la domination, enfin, en tout cas, les GAFA ont évidemment une grande prise sur l'entièreté des données des utilisateurs du monde entier. Et donc, l'Europe a, je crois, pris ses responsabilités par rapport à ça. Alors, c'est une goutte dans le travail qu'il y a à faire pour réguler une partie, mais c'est quand même une goutte importante. Et donc, on le voit peut-être concrètement aussi dans ces profils. Enfin, je veux dire, si vous voulez aujourd'hui récupérer votre historique de votre activité sur un réseau social ou un réseau de messagerie, vous aurez plus facile aujourd'hui pour pouvoir sauvegarder ces données-là qu'avant 2018. Alors, avant 2018, c'était la croix et la bannière pour fermer son compte, tout simplement déjà, parce qu'il se laissait le choix de garder quand même des traces de vous si un jour vous voudriez revenir sur le réseau social. Et donc, ils ne supprimaient pas l'entièreté de vos données. Aujourd'hui, ils doivent se conformer à cette obligation. Et s'ils ne le font pas, ils peuvent avoir des sanctions. Et donc, les autorités européennes, ça agissent à grands pas. Donc, au niveau des autorités de protection des données, donc c'est les institutions qui sont publiques qui doivent faire respecter ce RGPD sur le territoire européen, se sont réparties les instructions vis-à-vis des grands prestataires informatiques. Et donc, voilà, donc Facebook…
On peut peut-être rappeler en Belgique, donc en France, c'est la CNIL, hein, donc, qui voilà. est cette autorité. Et en Belgique, c'est… parce qu'elle a changé de nom, je ne sais plus le nom réactualisé.
Et l'autorité de protection des données, l'APD en français en tous les cas, et qui après, avant, était la commission vie privée, comme on l'appelait avant, qui est devenue l'autorité de protection des données. Et donc, c'est une chambre d'avis à certains moments, donc ils peuvent être consultés sur base d'un projet de loi, par exemple, qui concernerait des données à caractère personnel. Donc, ça fait fort polémique en Belgique pour le moment, par exemple, sur nos données de vaccination. C'est un sujet, évidemment, très tendance, évidemment, dans le contexte de la crise que l'on vit maintenant, sanitaire. Mais donc, voilà, par exemple, là, l'autorité de protection doit être consultée sur tout projet de loi qui voudrait chercher à collecter des données de citoyens et les données de vaccination sont évidemment une donnée importante. Et aussi une chambre contentieuse, c'est-à-dire où on peut porter plainte, soit le citoyen lui-même peut porter plainte s'il n'a pas eu gain de cause vis-à-vis d'un responsable de traitement, donc comme on le dit dans le jargon du RGPD, mais donc d'une entreprise qui aurait collecté des données à son insu ou de mauvaises données, qui ne les aurait pas supprimées, etc. Et les autorités vont évidemment jusqu'à s'occuper évidemment de faire respecter le RGPD par des grosses entreprises de type Google, Facebook. Et c'est là que je disais, c'est qu'au niveau européen, certains s'attaquent à Google, d'autres s'attaquent à Facebook. Et voilà, et ils gagnent ces procès. Pour l'instant, ils les gagnent. Alors après, est-ce que ça empêche les GAFA de continuer à essayer quand même de vendre leurs données? Évidemment, voilà, ils essayent de contourner la règle et c'est évidemment des mastodontes. Mais ça a le mérite, en tous les cas, de les faire bouger et de les obliger quand même à mettre en place des choses pour moins prendre nos données à tout vent, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc ça,
donc effectivement... Tu parlais des petites entreprises avec lesquelles tu travailles ou des associations, des petites organisations. Évidemment, le RGPD concerne toutes les organisations, peu importe leur taille, mais à partir d'un certain nombre d'employés, il y a une obligation à avoir un DPO, c'est ça? Donc, ce qu'on appelle Data Protection Officer.
Oui. Voilà. Donc, alors, il y a plusieurs... chose pour pouvoir se mettre en conformité par rapport à ce règlement. Alors oui, ça concerne bien tout le monde. Donc tout le monde, toute structure qui collecte des données doit se mettre en conformité. Et alors là, c'est les incohérences évidemment dans le législateur. Parfois, hein, ça arrive évidemment. Et donc le registre des traitements. Donc la première étape, c'est d'identifier les traitements de données que l'on opère avec des données à caractère personnel. Donc un traitement de données, c'est toute opération qui est effectuée avec des données à caractère personnel. Donc, ça va de « je fais remplir un formulaire d'inscription de l'enfant pour un stage ». Ça, on collecte des données sur le parent et ou sur l'enfant. Donc là, on collecte des données. Donc ça, on doit se conformer au RGPD. Ça peut aller jusqu'à « là, je crée une base de données avec toute ma donnée client ». Forcément, je collecte des données d'adresse, des données de contact de mes clients et je les ai rassemblées dans une base de données ou dans un bête fichier Excel, je collecte des données sur quelqu'un.
Je t'interromps deux petites secondes. Si la personne donne son accord pour que ces données soient collectées, c'est OK et il n'y a pas de souci avec…
Bien sûr. Donc, voilà. Évidemment, quand je remplis le formulaire, on peut supposer que j'ai accepté de remplir ce formulaire et je l'ai signé. Donc, le consentement est évidemment la première, en tous les cas, une des manières de légitimer le traitement de données. Mais évidemment, il y a des tas de cas où j'ai besoin de ces données. Je prends l'exemple d'un employeur. Donc, dans l'ASBL, j'ai des employés. Forcément, j'ai des obligations légales qui m'obligent à collecter des données sur mon employé pour qu'il soit payé à la fin du mois et pour que ces données soient son salaire, soit que la sécurité sociale puisse agir. Donc, ce qu'en Belgique, on appelle l'ONSS. L'Office national de sécurité sociale. Donc, forcément, l'employeur est dans l'obligation de donner une série de données à la structure publique de sécurité sociale. Et donc, l'employé ne peut pas dire, à un moment, je ne veux pas que vous ayez mon adresse ou voilà, à son employeur. Donc là, on est bien dans une base légale qui fait que l'employeur va collecter des données sur son employé et va les communiquer à d'autres institutions parce qu'il est obligé de le faire. Donc là, on est bien... Donc, il n'y a pas que le consentement qui permet de légitimer un traitement de données à caractère personnel. Il y a des tas d'autres cas, et souvent, c'est d'autres cas, en fait. Le cas de l'employeur, donc n'importe quel ASBL a des employés, il collecte des données sur ses employés qui lui sont réclamées par d'autres pouvoirs publics et donc il est obligé de les rencontrer. Donc voilà, donc ça c'est une chose, mais ça va aussi de données que vous ne collectez pas de façon directe, je pense. Les factures que vous recevez des fournisseurs avec qui vous travaillez dans le contexte d'une entreprise, les données de facturation, moi en tant qu'indépendante, je dois forcément y mettre mon adresse, je dois y mettre mon numéro de TVA, donc mon numéro d'entreprise, et je dois y mettre mon numéro de compte bancaire si je veux que mon client me paye. Forcément, cette facture, donc mon client ne veut pas nécessairement savoir où j'habite ni connaître mon numéro d'entreprise, il a voulu juste travailler avec moi. Mais forcément, j'ai des obligations légales de mettre des données sur ma facture. Et lui va devoir conserver cette facture pendant X années, en l'occurrence de 7 à 10 ans minimum.
En France, c'est 10 ans. Je précise, en France, voilà, c'est 10 ans.
On a réduit le délai à 7 ans. C'est pour ça aussi que j'ai 10 ans. Mais donc, le délai comptable, c'est 10 ans en moyenne. Et donc, on doit pouvoir justifier, l'entreprise va devoir pouvoir revenir dans les justificatifs comptables au moins pendant 10 ans. Donc, elle garde la facture pendant 10 ans. Et donc, elle n'a pas voulu nécessairement collecter d'initiative des données, mais elle les a dans sa compta, qu'elle soit papier ou électronique. Je reviens là-dessus, mais voilà, même si vous avez tout ça dans des classeurs, dans une cave, il faut que cette cave soit sécurisée pour ne pas que n'importe qui puisse aller chercher ce classeur et trouver la facture de Mme Dubois dans ce classeur. Et donc, savoir où j'habite. Et donc voilà, donc c'est vraiment plus générique, ou en tous les cas, souvent les gens disent « Ah, mais ça concerne autant de données, ce n'est pas uniquement parce que vous aurez l'initiative de collecter, ça concerne l'ensemble des données que vous avez de façon directe ou indirecte sur des gens, des personnes physiques. » Voilà.
Ok, et donc le DPO, on avait commencé là-dessus, oui.
Non, voilà, mais
oui.
Alors, un autre rôle, donc l'employeur ou la SBL ou l'entreprise est considéré au sens du règlement comme le responsable des traitements. Donc, c'est bien lui qui a la responsabilité de se conformer au RGPD et de le faire appliquer. Il doit donc tenir un registre des données. Je précise que le règlement dit qu'on n'est pas dans l'obligation de tenir un registre quand on a moins de 250 employés. Sauf que là, moi, je le dis souvent à mes petites ASBL qui sont évidemment bien loin que d'avoir 250 employés, c'est que, oui, mais comme vous devez quand même identifier les traitements de données que vous opérez, moi, je ne vois pas comment on va le faire autrement qu'en remplissant le registre. Donc, je reste à dire que c'est bien de dire moins de 250, la loi nous dit ça, mais en fait, dans les faits, vous devez quand même identifier les traitements de données que vous faites, donc autant remplir le registre. Donc, moi, le registre, il est incontournable. Par contre, sur le DPO, ça dépend. Donc, ça, moi, je ne connais pas l'application française, mais dans la loi, donc le règlement européen dit qu'il faut désigner un délégué à la protection des données. Donc, comme tu l'as dit, un Data Protection Officer en anglais ou un DPD en français. Et donc, délégué à la protection des données dans le cas où on est une autorité publique. Mais le règlement dit que c'est laissé à l'appréciation des États membres de définir ce qu'est une autorité publique. Et dans la loi belge, la définition d'autorité publique, il y a plusieurs, évidemment, vocables, mais donc c'est évidemment, on entend bien toute administration publique depuis le niveau fédéral jusqu'au niveau local, hein, donc une commune, une mairie, enfin voilà, tout ça évidemment est considéré comme autorité publique, et ça tout le monde l'avait bien en tête. Mais ce qui était moins clair en Belgique, c'était est-ce que si je suis une ASBL, je ne suis pas considérée comme une autorité publique? Dans ce cas-là, je ne dois pas désigner, c'est ça le règlement dit, si vous êtes autorité publique, vous devez désigner un délégué. Si vous n'êtes pas autorité publique, c'est laissé à votre propre appréciation. Et donc, dans le cas belge, si vous êtes une ASBL, donc si vous avez un statut juridique, hein, donc ils disent si vous êtes sous un statut juridique de type ASBL ou de type société, enfin voilà, ça dépend. Et, donc c'est bien des et, pas des ou, et que vous êtes subsidié par les pouvoirs publics pour plus de 50% de votre chiffre d'affaires, et ou que vous devez rendre des comptes à l'autorité publique, ben voilà, que vous pouvez avoir un contrôle, alors vous êtes dans l'obligation vous êtes autorité publique. Et donc, la plupart des ASBL belges sont subsidiés, alors pas toutes à hauteur de 50%, donc celles-là, elles peuvent encore y échapper, mais en tous les cas, si vous avez 51% de votre chiffre d'affaires qui sont des subsides publics, alors vous êtes autorité publique au sens de la loi belge. Donc ça, je ne sais pas en France ce qu'il en est. Mais effectivement, après, ça ne change pas grand-chose. Ça change parce qu'il faut du temps de travail pour un délégué à la protection. Alors, le délégué à la protection des données, donc je vous ai dit, il y a le responsable de traitement, mais le délégué à la protection des données, forcément, lui, il n'a pas de responsable. Il doit accompagner le responsable de traitement dans les opérations de mise en conformité. Il doit veiller à ce que l'entreprise ou la SBL soit conforme, et donc veiller aussi à la mise à jour du registre à extant, veiller à ce que l'information circule dans l'organisation de ce qu'on peut faire ou pas avec les données, et surtout il doit être là pour répondre s'il y a une demande d'un citoyen par rapport à ces données à caractère personnel et s'il y a un contrôle. Mais le délégué n'est pas responsable s'il y a une faille, c'est-à-dire c'est bien le responsable de traitement qui devra assumer les faits. Alors, souvent, dans les petites structures, on dit « Oui, mais bon, on va mettre ça sur la tête de qui ?» Parce qu'en gros, on est 3 ou 4, donc c'est pique-nique douille, c'est toile en douille, entre le GRH, ben voilà, on fait déjà tous beaucoup de choses quand on travaille dans des ASBL, dans des petites structures, en tous les cas, idem dans des petites PME. Mm. Et donc, voilà, donc la désignation du délégué, ben, je veux dire, c'est la mise en conformité qui va prendre du temps. Après, normalement, si vous ne faites pas de revente de vos données, que voilà, vous n'aurez pas non plus, ce n'est pas un temps plein hein, du tout. C'est une partie d'un temps de travail avec quelqu'un qui est attentif à ce genre de choses. Et le règlement dit aussi qu'il y a certaines fonctions qui sont incompatibles avec le rôle de délégué, par exemple le responsable RH, parce que le responsable RH crée beaucoup de données à caractère personnel des employés. Et donc, lui, on déconseille qu'il soit délégué à la protection des données parce qu'il peut être jugé parti si à un moment donné, il y a un problème avec ces données-là. Évidemment, on voit mal un employé venir déposer plainte auprès du délégué à la protection des données, ce qu'il devrait le faire si ce délégué est le responsable RH, évidemment.
Ouais, ouais.
Et à le responsable IT. Puisque j'oublie de dire, dans la conformité, il y a donc ce registre à établir avec cette donnée. Et surtout, hein, comment est-ce que vous protégez, comment vous gérez des données à caractère personnel. Et donc ça, ben, il y a en gros, évidemment, avec des données électroniques, de comment j'assure que le serveur du fichier ne peut pas être piraté, que les données sont sécurisées, les données à caractère personnel ne sont pas accessibles à tout le monde, mais seuls aux agents qui doivent le voir. Donc, il y a des données techniques, des paramètres techniques, qu'évidemment, c'est souvent l'informaticien qui doit mettre en place. Donc, on dit souvent que l'IT aussi ne peut pas être désigné comme une DPO.
Souvent, y compris si on a un site web, mettre un bandeau pour l'acceptation des cookies, c'est ce genre de choses-là, effectivement.
Oui. Ouais. OK. Voilà. Le rôle du DPO dans des petites structures, moi, je dis, bon, voilà. Alors, en Belgique, pareil, si on a un DPD, on est censé le déclarer. La personne doit se déclarer sur le site de l'autorité de protection des données. Donc, ça, c'est la loi belge qui le dit. Après, voilà, après, si on n'en a pas, on peut être sanctionné si à un moment donné, on a une faille dans le truc pour ne pas avoir mis en place, d'avoir pas de personne dedans, en plus de l'infraction qu'il y aurait sur les données parce qu'elles auraient été volées ou qu'elles auraient été disparues, enfin, où il y aurait la plainte. Mais bon, je veux dire, l'important pour les gens, c'est déjà de se mettre en conformité pour les ASBL et les PME. Je pense qu'alors là, après, ben, la désignation, il peut être externalisé aussi. Donc, ça peut être une fonction qu'on externalise d'organisation. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui doit être dans l'organisation. Voilà, pour toute la question du délégué.
Intéressant. Mais alors, du coup, ça, c'est pour tous les aspects très pratico-pratiques. Mais effectivement, on a parlé tout à l'heure du fait que c'était plutôt positif, a priori, de savoir que nos données sont mieux protégées, que ça avait quand même entraîné pas mal de questions sur les enjeux en termes d'archivage. Hein, donc, voilà. Et j'ai le sentiment que dans la... pour les gestionnaires de l'information, cette question du RGPD a quand même été un tournant dans l'évolution de la profession. Tu l'as ressenti comme ça aussi, toi ?
En tous les cas, je le ressens au quotidien dans le fait que les gens maintenant ont repris les entreprises ont repris conscience de ce qu'elles avaient comme données. Parce que ça, c'est une chose. Donc, et évidemment, pour le métier de gestionnaire de l'information, c'est un bon levier. Parce que je vous dis, moi, il y a certains clients où je fais d'abord la mise en conformité au RGPD. Et puis, en travaillant avec eux sur ces questions-là, on se rend compte que c'est con, mais je veux dire, les données, leurs données parfois très sensibles, en dehors de données à caractère personnel, se retrouvent dans des armoires qui sont vues au-dessus de tout le monde. Et je leur dis, écoutez, c'est peut-être pas une bonne idée que là, ces données-là, elles soient dans le couloir où tout le monde passe. Je pense à même des données de santé. J'avais une maison médicale, par exemple, qui m'avait dit, l'agent était plus formé au RGPD. Il m'avait dit, oh, madame, tous les dossiers des patients, il y a l'accueil, il y a une salle d'attente à l'entrée du couloir. Le bureau du médecin est tout au fond. Et le bureau du secrétariat n'est pas très loin de la salle d'attente. Mais le secrétariat, après 4 heures, il n'y a plus personne. Et donc, les patients sont parfois reçus jusqu'à 8 heures du soir. Et donc, ils passent dans le couloir dans lequel il y avait tous les dossiers des patients. Dans des armoires, alors même si les armoires, on va dire, c'est des armoires à coulisses, là, tu vois, des armoires grises, là où on peut fermer, les armoires ne fermaient pas à clé. Donc, j'ai dit, mais là, pour moi, j'ai pu faire prendre. L'agent m'a dit, mais effectivement, on n'est pas là tout le temps. Et donc, j'ai dit, mais vous vous rendez compte que ces données-là, ce sont des données de patients, donc c'est quand même pas rien, et que ça peut avoir un préjudice si quelqu'un de mal intentionné, pour X raisons, vient chercher le dossier d'un patient avec qui il est en contact et voit ainsi tout le dossier médical de la personne. Mmh. Donc, je veux dire, le RGPD a fait prendre conscience dans les organisations que finalement, nos données, elles sont un peu n'importe où. Enfin, on les met là où on peut, tant en papier qu'en électronique. D'autres employés me disent « Ah, mais nos données GRH, nous, sur le serveur, on a chacun notre dossier, mais si je vais aller voir dans le dossier de Martine, qui est ma voisine de bureau, je peux. » Or, c'est pas… Alors, on se fait confiance, surtout dans des petites structures, quoi. On fait confiance, mais ce n'est pas une question de confiance. Comme je dis en tant que gestionnaire d'information, ce n'est pas parce que je partage toutes mes données que je fais confiance à tout le monde. La confiance, ça ne se traduit pas comme ça. Et donc, c'est aussi dans le rôle du gestionnaire de l'information d'aider l'entreprise à bien gérer ses données. Et donc, oui, le RGPD, de ce point de vue-là, a aidé, en tous les cas, a fait prendre conscience aux entreprises que c'était le foutoir. Enfin, désolée de le dire comme ça, mais que souvent, ouais, en fait, ouais, c'était un peu n'importe où, qu'il fallait remettre de l'ordre. Et que donc, cette démarche du RGPD, même si c'est très ennuyant et ce n'est pas les démarches les plus agréables à faire, c'est qu'après, quand on est remis en ordre de marche, on a pu rétablir des procédures, remettre des procédures de qui peut avoir accès à quoi. Si vous avez accès à ces données-là, attention à bien fermer l'armoire de l'accueil. Un autre exemple que je dis, c'était assez fou, c'était dans une agence qui forme des demandeurs d'emploi et pour des formations X ou Y. Et dans certains cas de formation, notamment pour des formations en périculture, les gens en formation, donc les demandeurs d'emploi, sont formés par l'agence. Et pour pouvoir faire un stage en crèche, ils doivent fournir un extrait de casier judiciaire. Et donc, quand je formais l'équipe, je disais, mais tiens, comment est-ce que les demandes… Donc d'abord, l'extrait de casier judiciaire, ça doit être prouvé pour qu'il n'y ait pas de fait de mœurs, etc. Et que donc, pour qu'ils puissent aller en stage. Et donc, l'agence demandait au demandeur d'emploi d'aller chercher son extrait de casier judiciaire, de le ramener et de le déposer pour que le formateur puisse vérifier qu'il était apte à pouvoir aller en stage. Et donc, dans la pratique, ils disaient aux gens, vous le ramenez, vous le déposez à l'accueil. À l'accueil. Et donc, la plupart des gens déposaient leurs papiers comme ça, même pas sous enveloppe, etc. Et donc, ça veut dire que n'importe qui passait juste après le demandeur pouvait voir si ce demandeur, en ouvrant l'enveloppe, même si c'était dans une enveloppe, si ce type avait un casier judiciaire ou pas. Et je dis, ça, c'est pas une bonne idée, hein, les amis. Il faut au moins une boîte aux lettres. C'est tout con, mais une boîte aux lettres à l'accueil où les gens déposent, évidemment, les papiers qu'il vous faut. Et puis, la question qu'on s'est posée, mais finalement, vous, en tant que formateur, est-ce que vous avez besoin du papier? Vous avez besoin de vérifier que la personne est apte. Et la personne doit pouvoir fournir à la crèche, qui, elle, a des obligations légales de vérifier aussi, ce document. Mais vous, en tant que formateur, vous devez faire que vous accompagnez le demandeur et vous êtes l'intermédiaire avec l'organisme d'accueil. Vous devez vérifier une certaine formalité. Mais vous, pourquoi vous gardez après? Parce qu'alors, il le classait dans le dossier du demandeur. Et puis, j'y mets. Et on sait qu'un casier judiciaire en Belgique, ça a une validité de 3 mois. Enfin, l'extrait de casier judiciaire que vous demandez, c'est très court, la durée de validité. Donc, tu dis après 3 mois, mais donc après 6 mois, après 1 an, dans le dossier, on trouvait toujours ce casier judiciaire.
Oui, il ne vaut plus rien.
Il ne vaut plus rien. Et est-ce qu'il y a un intérêt pour le responsable de traitement, qui est en l'occurrence ici l'agence, d'avoir conservé ce papier dans ce dossier? Non, vous n'aviez même pas besoin de l'avoir. Vous deviez vérifier que la personne était apte. Et donc, c'est que le demandeur vous montre le papier à vous, le formateur, que vous cochiez « Ok, j'ai vu ». Donc, il faut une formalité qui fait que vous puissiez cocher dans le système « Il m'a bien montré, quitte à mentionner la date du jour où vous a montré le papier ». Et vous êtes assermenté à ne pas divulguer ce genre d'infos, donc c'est dans votre mission, dans votre boulot. Mais vous n'avez pas besoin de garder le papier. Vous n'en avez pas besoin, vous. Voilà. Quitte à dire au demandeur, par contre, à la crèche, quand tu vas arriver le premier jour, donne-le. Parce que peut-être que la crèche en a besoin pour prouver que tous les gens qui travaillent chez elle, et elle a peut-être une autre obligation légale pour qu'elle puisse le vérifier. Mais vous devez juste vérifier que la personne a hâte, c'est tout. Et donc voilà, donc là, c'est le genre de choses que le RGPD, quand on travaille là-dessus, mais le gestionnaire de l'information, dans son travail en général, va pouvoir jouer, est là pour vérifier de pourquoi est-ce que je collecte cette information, qu'est-ce que j'en fais avec et où je la conserve si je dois la conserver et comment j'assure son élimination à terme.
Mais donc, voilà, il va proposer des solutions.
Le gestionnaire, ça leur a donné en tous les cas une place plus importante peut-être dans l'organisation quand il y en a un, parce qu'il n'y a pas toujours de gestionnaire d'information dans les structures.
Non, mais d'où l'importance que des gens comme nous puissent intervenir effectivement pour jouer ce rôle-là de manière ponctuelle et puis après que la structure devienne autonome à ce niveau-là.
Oui, donc ça c'est vrai que toi, enfin voilà, je sais que tu le fais déjà mais je veux dire oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas toujours peut-être besoin qu'il y ait quelqu'un sur place dans les petites structures. Je veux dire, si les règles sont bien mises en place, ça peut être que alors ponctuellement on revient nous en tant que consultants pour aider à réajuster les choses s'il y a une nouvelle... Voilà, mais donc effectivement, c'est bien notre rôle en tant que nous, de consultants, d'aider en tous les cas à mettre de l'ordre dans les informations, papier, électronique, d'accompagner la structure, d'automatiser certaines choses, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de dématérialisation de certains processus. Mm-hmm. Et donc là, nous, on peut aussi aider à analyser ce processus, de se dire, et là, je reviens avec cette histoire d'extraquage judiciaire, ben, finalement, est-ce qu'on va le scanner ? Ben non, on ne doit pas l'avoir, ce document, en fait. Et donc, de pouvoir analyser chaque étape, notre rôle à nous est vraiment là aussi, je pense, en tant que consultant, d'aider les gens à se poser des questions. Et alors, on a une connaissance avec nous des délais légaux. Alors, on ne sait pas qu'on connaît tout, parce qu'en fonction des secteurs d'activité où on agit, on doit se replonger dans la législation qui est spécifique à ces secteurs d'activité. Et ça, c'est à la fois passionnant, mais comme je dis toujours à mes clients, attendez, je dois quand même vérifier avec vous certaines choses. Je pense, j'ai des clients dans le secteur du prêt à la consommation, de ce genre de choses. Donc là, moi, je ne connais pas toujours bien les législations du secteur financier.
Spécifique, oui, oui, mais bon, voilà, à ce moment-là, on s'adapte.
Voilà, on s'adapte au contexte et alors on cherche avec les gens le mieux. Et de nouveau, on adaptera en fonction de la réalité dans laquelle vous êtes. Et je dis toujours à mes clients, moi, l'objectif, c'est que vous puissiez fonctionner dans ce contexte, que la loi soit quand même appliquée dans tout ce qu'on peut appliquer, mais forcément, ça doit rester souple pour vous dans l'application et pas se dire à chaque fois que je prends le document à tel endroit, attention, attention, j'ai une alarme qui saute si je fais un doublon ou si je fais… Voilà, c'est réapprendre aux gens à se fixer des règles.
Simple, en fait.
Automatisme.
Oui, et des règles simples qui ne viennent pas complexifier encore, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire, bon, ben voilà, ce RGPD, ça va compliquer le travail des équipes au quotidien, voilà. Ça va être un cauchemar, mais notre rôle, justement, c'est de dire, non, attendez, on va faire en sorte de vous aider, justement, à simplifier les choses, voilà. À y voir plus clair et à mettre l'attention là où elle doit être mise en particulier, voilà, exactement.
Et souvent, j'ai quand même des gens qui me disent ben « finalement, ça a simplifié parfois certains processus où, où maintenant, on voit plus clair. En fait, on a des réflexes qu'on n'avait pas. Et donc, par exemple, des agents d'accueil qui vont dire « ah, mais avant, attends, je prenais comme ça par téléphone l'adresse mail de la personne parce que je l'inscrivais à une demande et puis j'avais… » Et puis, voilà. Et donc, on va remettre des règles qui, finalement, vont faciliter quand même aussi la vie du partage de l'information dans une équipe, quoi. J'ai aussi, c'est que finalement, maintenant, tout le monde sait et on va peut-être mettre des outils de gestion, et ça via le RGPD ou via la gestion documentaire en général, qui font que les gens vont moins perdre de temps à répliquer la donnée parce que moi, je dois la collecter pour telle raison. Et en fait, l'agent, après, dans le bureau d'à côté, recommençait le dossier parce qu'il n'avait pas mon dossier à moi. Donc, ouais. Je veux dire, en automatisant certains processus, avec des outils qui ne sont pas non plus toujours… parfois, c'est des fichiers Excel. On peut commencer avec des fichiers Excel, quoi. Je veux dire, avant…
Oui, ouais, tout à fait. Mais,
voilà. Donc là aussi, l'avantage de la consultance que moi, j'apporte, c'est d'essayer de prendre les gens là où ils sont, de déjà les faire avancer d'un pas, de deux pas, de trois pas, et ça sur le RGPD, évidemment, et sur l'ensemble de leur processus. Et puis voilà, si ça, c'est déjà bien, OK, avec ça, on va fonctionner mieux. Et peut-être qu'après, on pourra passer d'autres pas dans la partie de gestion de son information. Mais on y va par étapes, quoi. C'est bien d'y aller par étapes. Voilà.
OK. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour la question RGPD. C'est chouette, ça donne vraiment un chouette éclairage et avec les exemples que tu as donné, je trouve ça très chouette. Alors peut-être juste avant de clôturer notre conversation, on vient de parler du RGPD, donc comme un des enjeux majeurs en matière de gestion de l'information. C'est quoi pour toi les autres enjeux qui se présentent pour les années à venir en matière de gestion de l'information?
Mais moi, mais ça, évidemment, c'est une de nos grands points communs. C'est que moi, je veux dire, je fais évidemment de l'archivage, de la gestion de l'info depuis 25 ans. Donc, voilà, je suis une vieille baroudeuse dans le domaine. J'ai toujours suivi les évolutions technologiques. Donc, je veux dire, vraiment, moi, ça m'a toujours intéressé d'avancer dans les jets. Enfin, voilà, je suis une fan du salon Documation à Paris, par exemple. Donc, j'y suis allée régulièrement, et je veux dire, il y en a qui vont au salon de l'auto et qui sont comme des enfants au salon de l'auto, mais moi, j'arrive au salon d'éducation, je suis comme une enfant dans une grande salle de jeu et j'adore. Donc, je ne peux pas être soupçonnée de me dire que je ne vais pas vers le numérique. Mais par contre, une des préoccupations que j'ai de plus en plus au regard aussi de cette crise sanitaire que l'on vit pour le moment, du passage au télétravail en complet, etc. C'est la préservation à long terme de toutes ces données numériques que l'on produit de façon exponentielle. Parce que ça, je pense qu'on a appris ce que c'était une exponentielle avec cette crise sanitaire. Mais les données numériques, ben voilà, on produit toujours plus. Alors, toutes sortes de données très intéressantes, etc. Mais et le progrès nous amène des choses et l'intelligence artificielle, tout ça, voilà. Je suis assez à la fois preneuse et à la fois je me dis attention à notre empreinte numérique au sens d'une part, ben, voilà, est-ce qu'à un moment on ne va pas arriver aux limites aussi du numérique au sens que ça consomme de l'électricité sur les data centers, ça s'empile au fur et à mesure, on voit moins parce que c'est plus physique ou c'est moins physique. Donc moi j'ai une crainte là et l'autre crainte mais qui est liée à l'empreinte numérique aussi, c'est comme archiviste, on doit pouvoir faire son histoire aussi avec ces données numériques. Et autant avec le papier, on sait, même si ça prend de l'espace dans des bureaux et dans des centres d'archives, ça prend des mètres carrés, le papier, le numérique, c'est dans 50 ans, dans 30 ans même, je vais mettre même en 20, est-ce que je produis comme information aujourd'hui, les tweets, les réseaux sociaux? Oui, je fais confiance au fait que Facebook va me rappeler dans un an notre conversation d'aujourd'hui parce que j'aurais posté un petit truc, j'ai passé un super moment avec Florence aujourd'hui. Mais ce n'est pas faire mon histoire, ça. C'est qu'est-ce qu'il va rester comme trace de ce qu'on produit aujourd'hui en électronique dans 20, 30 et 50 ans. Et pour moi, il y a une sorte de paradoxe entre le fait qu'on est avec des ressources qui sont limitées sur Terre, je pense que ça, voilà, en électricité, en espace... en production numérique, on va quand même arriver à des limites, je pense. Et est-ce que c'est raisonnable, en tous les cas, de vouloir toujours plus ? Et le fait de me dire, mais dans 50 ans, est-ce qu'on pourra raconter l'histoire d'aujourd'hui, c'est-à-dire de cette crise sanitaire, si aujourd'hui, on n'en garde pas déjà des traces et qu'on ne laisse pas le soin à des géants du net de conserver pour nous, à des data centers qu'on ne sait pas où ils se trouvent, on ne sait pas ce qu'ils conservent. Et là, moi, ça, c'est une vraie préoccupation démocratique au-delà de l'empreinte numérique. Il y a l'empreinte numérique, pour moi, c'est important. Et ces enjeux démocratiques, de qu'est-ce qu'on racontera de notre histoire aujourd'hui. Et ça, comme gestionnaire de l'information, je pense qu'on a vraiment notre rôle à jouer et donc à continuer à accompagner les entreprises et à aussi leur dire quels sont les formats pérennes de conservation, est-ce qu'on va et qu'on mette l'accent sur ce qui est vraiment important de garder, quitte à effectivement faire le choix qu'on ne gardera pas tout. Et pour moi, on ne doit pas garder tout. Et donc, on peut se dire qu'en fait, ce sera une petite partie de chaque histoire qu'on va garder, mais c'est important de s'assurer que ça, on puisse le garder à long terme.
C'est important ce que tu dis là parce que... C'est important ce que tu dis là parce que souvent, on considère que l'archiviste, il est là pour empêcher qu'on détruise des documents et pour faire en sorte de garder tout et que l'archiviste va d'office vouloir garder tout. Or, en tant qu'archiviste ou gestionnaire de l'information, en réalité, on n'est pas là pour ça. On est là justement pour pouvoir identifier ce qui doit être conservé de ce qui peut être détruit. Et je pense que c'est très important de rappeler cette nuance parce que voilà, c'est souvent quelque chose qui est ignoré ou en tout cas, on nous voit dans le sens contraire, c'est-à-dire oui. comme des collectionneurs presque de documents oui. ou de voilà, et c'est en réalité pas du tout ça.
Et ça, c'est vrai que là aussi, moi j'agis parfois avant des déménagements, et alors les gens me voient, mes clients me disent bah, tu jettes toi ? Ben, je dis oui, je jette. Alors après, je dis aux gens, je préfère passer dans les armoires avant que vous jetiez. Comme ça, je vois. Et alors après, même si je ne connais pas bien la structure, je repère au moins c'est quoi les documents engageants, ce qui va raconter l'histoire d'un dossier. Par contre, toute la doc, parce que les gens accumulent. Et en numérique, c'est pire. Hein. Je veux dire, vraiment, en numérique, c'est pire. Quoi. Et donc, je dis, enfin, c'est pire. C'est-à-dire qu'on ne jette plus en numérique. Et donc là, c'est remettre les règles. Et ça, vraiment, je crois que notre rôle, nous, et c'est là que je viens, que je trouve que ça a du sens d'être gestionnaire de l'information avec ces questions d'empreinte numérique. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Et je suis très contente de travailler avec toi sur des projets comme ça et de formation et de modules qu'on va développer dans les années qui viennent parce que pour moi c'est vraiment ça a vraiment tout son sens. On a notre rôle à jouer dans ce grand monde où on espère toujours en tous les cas on doit assurer aussi la survie des générations futures. Et donc nous comment on peut faire notre part, ben, c'est au moins là où on est efficace, c'est-à-dire à pouvoir mettre ses règles, à jeter, à apprendre aux gens et à continuer à réfléchir collectivement à ces enjeux de qu'est-ce qui fait sens dans notre société, quoi. Et ça, dans les deux cas, on y est, l'empreinte numérique et les enjeux démocratiques liés à la gestion de l'information.
Merci.
Voilà.
Non, vas-y,
voilà.
si tu veux rajouter encore.
L'enjeu démocratique aussi pour des structures privées, parce que souvent les gens disent, Madame Dubois, nous, notre histoire, elle n'intéresse personne. Et je l'ai tout le temps, cette question-là, chez les clients, en disant, mais je dis, si, en fait, vous n'imaginez pas qu'en fait, je finis la Fédération des maisons médicales. Donc en Belgique, il y a tout un réseau de maisons médicales avec des pluridisciplinarités de médecins qui font ça, des tarifs raisonnables pour des publics précarisés. Et c'est super important qu'on comprenne pourquoi ces médecins se sont engagés dans cette dynamique-là il y a 40 ans et que c'est alternatif, entre guillemets. En tous les cas, à un moment donné, les gens avaient une vraie volonté de le faire. Et de comprendre ça, ça fait sens dans la société dans laquelle on vit. Et comme on connaît l'histoire du Moyen-Âge ou l'histoire de la Renaissance avec des gens, voilà, on doit pouvoir connaître ces petites, ces grandes histoires. Donc voilà, mais donc merci à toi de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec toi.
Écoute, avec grand plaisir, merci
à
beaucoup.
À change de revanche dans un prochain podcast où c'est moi qui t'interroge.
Écoute, avec plaisir, merci pour cette chouette discussion. Peut-être si nos auditeurs veulent en savoir plus sur toi, on peut aller sur ton site, donc c'est valoressence.be, c'est ça?
C'est ça.
Tu peux épeler exactement pour que...
Donc alors, valoressence, c'est valoressence.be. C'est arborescence, mais c'est je mets de la valeur sur vos arborescences. Donc ça, évidemment, ça avait .be, évidemment. Donc j'agis en Belgique, mais voilà, on peut aussi l'avantage de travailler avec Florence maintenant à distance, c'est que on sait aussi interagir ensemble à certains moments. Et oui, donc merci de m'avoir donné cette opportunité de partager un peu de ma passion.
Écoute, super, ben avec grand plaisir, ce fut un chouette moment. Voilà, eh bien, à bientôt alors.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Si vous avez aimé cet épisode, qu'il vous a appris des choses ou fait avancer dans votre approche du numérique, n'hésitez pas à me laisser un avis. Je serai ravie également de recevoir vos suggestions, tant sur la forme que sur les thématiques abordées. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon blog, www.junga.re/blog. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Dans la jungle du numérique. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Marie-Laurence Dubois, gestionnaire de l'information, présidente de l'Association des archivistes francophones de Belgique pendant 6 longues années, une vraie passionnée de son métier comme vous allez pouvoir l'entendre. Nous parlerons avec elle bien évidemment de son parcours, mais surtout de la protection des données à caractère personnel, un sujet qu'elle maîtrise particulièrement bien comme archiviste. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Dans la jungle du numérique. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Marie-Laurence Dubois, gestionnaire de l'information, présidente de l'Association des archivistes francophones de Belgique pendant 6 longues années, une vraie passionnée de son métier comme vous allez pouvoir l'entendre. Nous parlerons avec elle bien évidemment de son parcours, mais surtout de la protection des données à caractère personnel, un sujet qu'elle maîtrise particulièrement bien comme archiviste.